C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Les relations entre la Russie et la Finlande, deux pays qui partagent une frontière de 1300 kilomètres, ont été marquées de plusieurs bouleversements au fil de l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Finlandais ont dû payer des réparations à l'URSS pour avoir combattu un certain temps aux côtés des Allemands. Le pays a tout de même conservé son indépendance, mais a dû observer une neutralité stricte. Pas question, par exemple, de devenir membre de l'OTAN. Aujourd'hui, la Finlande observe avec inquiétude l'agression russe en Ukraine. Et pour en parler, j'ai discuté plus tôt aujourd'hui avec Alexander Stubb. Monsieur Stubb a occupé plusieurs postes importants en Finlande durant sa carrière, dont celui de premier ministre du pays en 2014 et 2015. Monsieur Stubb, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Dites-moi, Monsieur Stubb, comment les Finlandais réagissent aujourd'hui à l'invasion de la Russie en Ukraine?
Bon, on est bien sûr inquiète. Donc, la réaction était claire. C'est un sentiment, une émotion, une combinaison de peur et rationalité. Ça veut dire peur, c'est que les Russes font maintenant, mais une certaine analyse rationnelle, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Quand, une fois qu'on évacue un tant soit peu la peur et qu'on se penche vers le rationnel, on fait quoi?
Bon, première chose, on a une défense qui est assez forte, donc on a toujours financé notre défense. On a, par exemple, acheté des F-18 dans les années 90. En plus, ça fait quelques mois, on a acheté les F-35, 64. Donc, on a une défense très forte. Mais à mon avis, dans l'avenir, il faut entrer dans l'OTAN. L'OTAN est pas maintenant, pas aujourd'hui ou après-demain, mais je crois qu'on a commencé un chemin vers l'OTAN, c'est clair.
Bon, on voit, c'était le souhait de l'Ukraine aussi d'entrer dans l'OTAN et on voit le résultat. Ça n'a manifestement pas fait l'affaire des Russes. Comment les Russes réagiraient si la Finlande persistait dans cette voie de devenir membre de l'OTAN?
Bon, première observation, il ne faut pas comparer l'Ukraine de la Finlande. Quand même, on a l'histoire, culture, langage, tout complètement différent. En plus, nous sommes membres de l'Union européenne, on n'est pas un pays neutre, on utilise l'euro comme notre monnaie. En plus, on a un partenaire avec l'OTAN qui est assez fort, on a une compatibilité de l'OTAN qui est plus forte que celle de plusieurs États membres. Donc, quelle va être la réaction de la Russie? Bon, surtout pas quelque chose de positif, donc on va pas... Poutine ne va pas envoyer de petits cœurs sur Instagram, c'est clair, mais pour nous, c'est une question de notre possibilité souveraine, autonome de prendre une décision. Et pour nous, c'est une question de notre sécurité. Donc, la réaction ne va pas être positive, mais je ne crois pas qu'il y aura une réaction imminente et militaire.
Bon, dites-moi, avant que se déclenchent les hostilités en Ukraine, quelle était la qualité de la relation entre la Finlande et la Russie?
Bon, c'était pas mal. C'était cordial quand même. Donc, notre président a toujours eu beaucoup de réunions avec le président russe. Bon, pour les 20 ans, c'était soit Poutine ou soit Medvedev. Moi, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup travaillé avec Sergei Lavrov. Donc, c'était toujours une relation directe. Est strict, on peut dire. Mais maintenant, c'est clair, on n'a pas de relation. C'est pas possible d'avoir une relation avec quelqu'un comme président Poutine.
Vous avez eu l'occasion, vous le dites, d'avoir rencontré Sergueï Lavrov, le tout-puissant ministre des Affaires étrangères de Russie. Il a participé aujourd'hui à des pourparlers de paix en Turquie, au terme duquel, dans un point de presse, il a même dit que la Russie n'avait, au fond, pas envahi l'Ukraine. On se demande un peu dans quel univers parallèle il vit. Mais puisque vous l'avez rencontré, parlez-nous donc de lui. Quel genre d'homme est-il?
Oui. Bon, Lavrov, bon, il faut dire... Tout d'abord, qu'il était l'ambassadeur de l'ONU pendant 10 ans. En plus, maintenant, je crois que ça fait 17 ou 18 ans quand il est ministre des Affaires étrangères. Donc, il connaît son dossier très bien. En plus, il parle un anglais impeccable. Mais il faut aussi être honnête, c'est un langage un peu orwellien qui Lavrov utilise. Donc, la vérité de Lavrov est pas nécessairement la vérité de réalité, c'est clair. Hein?
Mais est-ce que vous pouvez avoir une discussion concrète avec lui ou quand vous, on lui parle, on a l'impression d'être sur des planètes différentes?
Si, oui et non, oui et non. Bon, je me souviens bien, bon, je suis ministre des Affaires étrangères 2008-2011. En plus, je me disais la guerre en Géorgie en 2008 avec Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères de la France. Donc, on a eu beaucoup de discussions, mais c'est très intéressant avec la France parce que si on pose une question qui est un peu, bon, qui lui fait inquiet ou qui est un peu difficile, il trouve toujours un autre chemin. Mm. En anglais, on dit, il utilise le whataboutism. Ça veut dire que il trouve toujours un autre coin.
Ouais, le fameux oui, mais.
Exactement. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre histoire? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre démonstration? Donc, c'est très difficile de lui attaquer dans la substance parce qu'il trouve toujours un autre chemin.
Monsieur Staub, bon, vous avez été premier ministre de la Finlande, vous avez eu l'occasion de rencontrer ces gens-là. Dites-moi, selon votre perspective, comment se passe à l'heure actuelle, comment se déroule l'exercice du pouvoir en Russie? Il y a beaucoup de gens qui disent que, bon, depuis la pandémie de COVID, Vladimir Poutine est de plus en plus isolé, qu'il ne parle qu'à sa garde rapprochée, à Lavrov, au chef de l'état-major des armées. Vous, comment vous analysez ça?
Non, moi je trouve que c'est toujours des analyses des amateurs. Donc, ce sont des gens qui ne comprennent pas qui est le système, le gouvernance en Russie. Déjà pendant les arts, il y avait toujours quelqu'un qui est dans la tête, qui a eu le pouvoir total. Et c'était un pouvoir donné par Dieu. Et c'était exactement la même chose, bon, soit avec Nicolas le Premier, soit avec Lénine ou avec Staline ou avec Brezhnev et maintenant avec Poutine. Donc, il y a une hiérarchie totale. Donc, c'est un système totalitaire. C'est Poutine qui dirige. Et Poutine a le petit prince qui travaille pour lui dans la gouvernance même et puis dans l'économie. Donc, toute cette narrative, l'histoire que il a perdu son tête, il est pas rationnel. Ce sont des gens qui connaissent pas le système russe. Il est complètement rationnel, mais rationnel dans sa façon de la Russie, pas une rationalité européen ou américain. Donc, il est pas isolé. Hein. Il a une grande vision. C'est la vision de Russie de l'histoire. Il voudrait bien trouver son place à côté de Staline, à côté de grands leaders russes. C'est son sentiment. Hein?
Dites-moi, il a évoqué deux fois Vladimir Poutine depuis le début du conflit l'arme nucléaire. Hein? Il a également monté le niveau d'alerte de ce qu'on appelle sa force de dissuasion. Vous, là, en Finlande, puis dans tous les pays limitrophes, je pense aux pays baltes, je pense à la Suède, votre voisin qui est pas très loin, jusqu'à quel point une utilisation potentielle des armes atomiques est une source d'inquiétude pour vous?
Bon, c'est très difficile à dire. Et pour moi, c'est seulement une spéculation. Donc, il utilise beaucoup de mots forts, il utilise des systèmes, mais pour avoir une attaque nucléaire, je crois que la possibilité pour ça est moins que 1% maintenant. Donc, il faut rester calme avec cette intimidation. Hein.
Bon. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre analyse. C'est une perspective très intéressante que la vôtre.
Bon, c'est mon plaisir, merci. Moi, je suis beaucoup le hockey canadien.
Ah oui, ben oui. Bon, on a des bons joueurs finlandais, même avec le Canadien ici à Montréal. Merci d'avoir été avec nous, Alexandre Staub.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Alexander Staub a été premier ministre de la Finlande en 2014 et 2015.
Patrick Lagacé en accéléré.
Déjà, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis l'agression russe. Ce chiffre devrait augmenter de manière considérable au cours des prochains jours. Et tout cela, bien sûr, ben, ça pose l'accueil des réfugiés, le problème de l'accueil des réfugiés dans d'autres pays. À l'heure actuelle, environ la moitié, enfin un peu plus de la moitié d'entre eux se dirigent vers la Pologne, mais d'autres pays devront éventuellement les accueillir. En France, on a mis sur pied un système très efficace. Tandis qu'au Canada, la bureaucratie fait craindre des délais dans le traitement des dossiers. J'en parle avec deux invités pour analyser l'ensemble de la situation. Le premier, c'est un journaliste de France 2. Il s'appelle Alban Micozzi. Je le rejoins à Bucarest, en Roumanie. Alban, bonjour.
Bonsoir à vous. Bonjour pour vous, c'est vrai.
Voilà.
Vous, c'est bonjour.
Voilà. Alban, dites-moi, la France a mis sur pied un système très efficace pour accueillir rapidement des réfugiés ukrainiens. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Oui, parce que c'est vrai que les images des réfugiés ukrainiens ont beaucoup touché la population française et il a été décidé de manière unilatérale par la France de accorder systématiquement un droit à rester en France de 90 jours, un droit de séjour de 90 jours à tous les Ukrainiens qui peuvent simplement prouver leur identité et le fait qu'ils sont Ukrainiens. Et à partir de là, le droit d'asile, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, le droit d'asile leur est offert pour 90 jours sans autre question. Alors c'est bien pratique parce que pour les Ukrainiens qui arrivent aux frontières, notamment de la Roumanie, de la Moldavie, de la Pologne, ils ont cette possibilité de se rendre en France sur la simple justification de leur identité et du passage à une des frontières reconnues de l'Union européenne.
Bon, et là, une fois qu'ils obtiennent ce droit-là, est-ce que l'État français les prend en charge pour les conduire sur le territoire français ou c'est à leurs frais?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'abord, l'ambassade de France n'est pas fermée. Elle continue son activité. Elle a replié de Kiev jusqu'à Lviv parce que c'est quand même moins dangereux. Mmh. Mais elle continue son activité, d'abord évidemment de prise en charge des quelques Français qui restent. Il en reste quand même quelques centaines encore en Ukraine. Moi, je reviens d'Odessa et il y a encore des Français à Odessa qui ne veulent pas partir. Et puis, ils prennent en charge les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions publiques qui sont menées et puis il y a aussi des associations qui se sont mobilisées. Là, je lisais dans un papier du jour qu'il y avait 5000 Français qui étaient arrivés dans les 48 heures, dans les 48 dernières heures. 5000 Ukrainiens, pardon, qui étaient arrivés en France dans les 48 dernières heures sur la foi de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on essaie de tout leur simplifier.
Bon, c'est très bien, belle initiative, mais 90 jours, ça reste 90 jours. On fait quoi après?
Alors ça, c'est une vraie question. Moi, j'étais tout à l'heure à l'aéroport de Iași, ça se trouve en Roumanie, et il y avait une foule, mais considérable, à chacun des points d'enregistrement. Il y avait des vols pour l'Allemagne, il y avait des vols pour l'Italie, parce que finalement, l'Europe occidentale applique cette règle des 90 jours. Que va-t-il se passer dans 90 jours? Ben, je suis incapable de vous le dire, parce que dans 90 jours, c'est dans 3 mois. Est-ce que ça sera la paix? Est-ce que tout le monde s'entendra à nouveau? Est-ce que la guerre continuera? Moi, je suis incapable de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, le dispositif couvre les Ukrainiens pendant 90 jours. Et puis, je pense très, très profondément que si dans 90 jours, la situation est à peu près la même, les Ukrainiens qui sont en France ne seront pas mis dehors. Ça, c'est sûr. Le gouvernement français, quel qu'il soit, vous savez qu'entre les deux, nous avons des élections présidentielles en France. Le gouvernement français, tel qu'il soit, gardera les Ukrainiens en France tant que cette situation de guerre, parce que c'est vraiment ça dont il faut parler, aura lieu en Ukraine.
Mais Alban, même si la guerre prenait fin et qu'il y avait un cessez-le-feu compte tenu de la destruction des villes, là, si on est un Ukrainien qui a quitté Mariupol et qu'on se retrouve en France, là, même si la guerre prend fin, ça va prendre combien d'années avant de pouvoir retourner habiter dans cette ville-là qui a été bombardée jusqu'à plus soif par l'armée russe?
C'est pour ça que les autorités françaises accordent sur le simple témoignage de la bonne foi un titre de séjour aux gens. Et moi, je ne vois pas, en l'état actuel des choses, la France mettre n'importe quel Ukrainien dehors de France. Un Ukrainien qui est en France, maintenant, il y restera le temps qu'il le souhaite.
OK. Alban,
on n'est pas dans l'immigration économique. On est vraiment dans des gens qui fuient. Moi, j'étais en Ukraine il y a 48 heures. On est dans des gens qui fuient des destructions massives. Moi, je pense à la ville de Nikolaïev qui se trouve à côté d'Odessa. Il y a des immeubles qui ont été pulvérisés.
Ah, c'est absolument terrible. Alban, en terminant, je sais que le but de notre entretien, c'est de parler de la situation des réfugiés, mais vous avez dit une chose au début de notre conversation. Vous avez dit que vous arrivez d'Odessa où vous avez croisé beaucoup de Français qui ne veulent pas quitter Odessa. Pourquoi ils ne veulent pas quitter Odessa dans le contexte?
il doit rester une centaine de Français dans le sud de l'Ukraine, mais... principalement effectivement autour d'Odessa, qui est une ville, vous savez, historique, culturelle, et c'est une ville qui est un port important. Il y a beaucoup de choses à Odessa. Il y a tout à la fois du commerce, il y a tout à la fois des intellectuels, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui se livrent à un petit peu de trafic, il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, Odessa, c'est ça. C'est un peu un mélange de tout. Et il y a des gens qui sont à Odessa et qui m'ont dit, nous, on partira pas, du moins tant que la Russie ne frappera pas la ville. Okay. Et pour l'instant, la Russie ne frappe pas Odessa. Alors, il y a deux explications. La première, parce qu'Odessa, c'est quand même le port le plus important du sud de l'Ukraine. S'ils rasent le port, bah, même s'ils prennent la ville après, il n'y a plus de port. Donc, ils perdent.
Et ils ne sont pas plus avancés.
Ils perdent une grande partie de sa valeur. Absolument. Mais en plus, la ville d'Odessa est très bien défendue. Moi, j'étais il y a deux nuits là-bas, au moment où il y avait des tirs. Et la DCA, la défense aérienne ukrainienne, marche encore très, très bien, je peux vous le dire.
OK. Ben, Alban Mikozy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
OK. À une prochaine. Alban Mikozy, journaliste à France 2. Là-dessus, je rejoins Patrice Brunet. Patrice Brunet est avocat spécialisé en droit de l'immigration. Bonjour, Patrice.
Bonjour.
Patrice, vous avez entendu ce que Alban Mikozy a dit à propos de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Dites-nous donc comment ça se passe au Canada.
Ben, je dois vous avouer qu'en l'entendant, j'avais un peu honte d'être Canadien parce qu'on bouge pas. Le Canada ne bouge certainement pas aussi vite que la France ou les autres pays européens. C'est une honte, c'est honteux. On devrait agir beaucoup plus rapidement. Les partis de l'opposition ont demandé au gouvernement de lever l'imposition de visa pour les Ukrainiens. Ça devrait se faire instantanément, ça devrait se faire rapidement et traiter les demandes et toute la documentation lorsque les Ukrainiens arrivent au Canada. C'est honteux pour le Canada. Et là où je suis, là où j'ai peur, c'est que très rapidement, le Canada va éroder sa réputation auprès de nos alliés européens si on tarde trop. Là, on voyait ce matin que M. Trudeau avait annoncé que les premières familles pourraient arriver en avril. Au début du mois de mai. C'est beaucoup trop tard. On a besoin de faire venir ces gens-là tout de suite, demain, la semaine prochaine.
Patrice, pourquoi c'est long comme ça? Pourquoi? Parce que les intentions du gouvernement semblent claires. On est prêt à ouvrir les frontières, mais d'un autre côté, on met des bâtons dans les roues pour pas que ça se produise rapidement.
Non, et honnêtement, j'ai pas la réponse pour ça. Faut poser la question au gouvernement directement parce que les plateformes numériques sont là, sont performantes aussi. Il s'agit simplement de lever les quelques barrières qui restent. Et vous savez, un Français qui veut venir au Canada remplit une demande d'AVS, une autorisation de visa électronique, et il peut prendre l'avion en dedans de quelques heures. Alors, il s'agit simplement d'étendre cette mesure-là aux citoyens d'Ukraine et le tour est joué. Ça peut se faire dans la prochaine heure. J'exagère peut-être un peu, mais ça peut se faire très, très rapidement. On lève l'imposition de visa. Parce qu'actuellement, pour les citoyens ukrainiens, ils doivent faire une demande. C'est sûr que le gouvernement a mis en place une procédure accélérée pour traiter les visas. Mais il faut quand même faire prendre la biométrie, il faut quand même remplir des formulaires et ça doit passer à travers certaines étapes dans le système. Et de toute évidence, Immigration Canada n'est pas équipé pour traiter ces demandes-là aussi rapidement que la situation critique l'exige.
Bon, est-ce qu'il peut y avoir dans ce dossier-là une certaine influence américaine? On sait que les Américains sont toujours prudents là, dans l'accueil de ressortissants étrangers. Est-ce que ça peut contribuer un peu cette prudence-là?
Ça m'étonnerait. Je suis pas dans le secret des dieux au gouvernement du Canada, mais le Canada a quand même est un État autonome et gère sa politique d'accueil des réfugiés de façon qui est fondamentalement différente de celle des Américains. Alors, ce n'est certainement pas une défense ou une raison pour fermer la porte. Et de toute façon, ces Ukrainiens-là qui viendraient au Canada, ils veulent pas utiliser le Canada comme un pays de transit pour ensuite aller aux États-Unis. Ils fuient la terreur, ils cherchent la sécurité de leur personne, de leur famille, et veulent simplement un endroit où ils peuvent poser leurs pieds, leur poser leurs valises et peut-être bâtir une nouvelle vie, comme beaucoup d'Ukrainiens, plus d'un million d'Ukrainiens l'ont fait il y a un certain temps.
C'est bizarre parce que tous ces problèmes-là avec l'immigration, il me semble que ce sont des problèmes ponctuels au Canada. On en parle abondamment depuis quoi? Depuis deux ou trois ans, ça fait régulièrement la manchette des journaux. Et il me semble que le gouvernement aurait dû un peu mieux être capable de réagir avec plus de rapidité.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un problème chronique de la rapidité du traitement des demandes d'immigration est toujours un problème chronique. Personnellement, j'ai des clients qui ont reçu leur certificat de sélection du Québec il y a 7 ans, qui n'ont toujours pas reçu la résidence permanente. Et ça, ce sont des gens qui ont été sélectionnés par le Québec. Maintenant, il y a eu des améliorations, il y a eu des plateformes numériques qui ont été développées, qui sont performantes maintenant, mais là, il faut continuer à construire et à lever les interdictions pour permettre à ces Ukrainiens de venir au Canada, parce que on est protégé par un grand océan, mais ça ne devrait pas être une excuse pour mettre des barrières pour que ces personnes-là qui ont besoin d'aide puissent arriver rapidement au Canada. Si on était un État européen où les gens pouvaient franchir la frontière à pied, et ça se produit actuellement, on ne serait pas dans cette situation-là. On donne l'image d'un pays qui est réconforté par un océan qui nous sépare des autres et de pouvoir émettre nos propres barrières à l'entrée, et c'est le cas, mais bon sang, actuellement, il faut les lever, ces barrières-là. Il faut permettre aux gens de prendre l'avion et de venir au Canada.
Excellent. Ben, Patrice Brunet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bonne journée.
C'est officiel, donc Jean Charest fera l'annonce ce soir à Calgary. Il se lance dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. J'en parle avec la journaliste Hélène Buzetti du journal Le Soleil de Québec et des coop de l'information. Salut Hélène.
Bonjour.
Hélène, dis-moi, c'est un gros pari pour Jean Charest. Est-ce qu'il peut gagner la chefferie du Parti conservateur?
Est-ce qu'il peut gagner? Ça, c'est la grande question. Mais s'il devient chef, est-ce qu'il peut gagner pour devenir premier ministre? Probablement que oui.
Mais commençons par le début.
Voilà, exact. C'est la première étape, ouais. Évidemment. Moi, ce que je pense qu'il s'annonce, c'est ce que j'appelle la bataille des gentlemen contre les populistes. Monsieur Charest, il incarne ce qu'on appelle des fois dans le milieu politique fédéral l'élite laurentienne. C'est-à-dire ces espèces d'élites politiques et médiatiques qui habitent le long du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs et dont les idées ont plutôt centristes ont dominé le discours public depuis la Confédération canadienne et jusqu'à l'élection de Stephen Harper en 2006. C'est un discours posé, modéré, informé par les opinions d'experts, et ce discours-là qu'incarne M. Charest, il va trancher radicalement avec le discours populiste d'un Pierre Poilievre qui, lui, cherche à canaliser les colères du jour sans nécessairement un souci de cohérence. Là. Mmh. Par exemple, il dénonce la flambée des prix immobiliers, mais il dénonce aussi la hausse des taux d'intérêt qui vise justement à freiner cette flambée immobilière. Alors, c'est vraiment cette bataille, la ligne de fracture qu'on regardait souvent là, entre la droite sociale et la droite progressiste, illustrée par le débat sur l'avortement, n'est pas la bonne grille d'analyse cette fois-ci. C'est vraiment cette idée de la modération versus le populisme. Et donc, M. Charest pense que la voie vers la victoire est cette modération et que les Canadiens veulent de ça. M. Poilievre, je pense, il est très content de la candidature de M. Charest parce qu'elle offre un superbe contraste avec sa position, sa candidature. Et donc, ça sera vraiment une bataille campée avec deux choix très, très, très distincts et très clairement établis.
OK, Hélène, je veux pas qu'on se lance là, dans tous les méandres des directives pour la course, mais quand même, les règles, on les a annoncées la semaine dernière, je crois. M. Charest semblait quand même assez satisfait. Là. Il va avoir plus de temps pour bâtir son organisation, obtenir des votes. Mais est-ce que c'est assez souple pour lui ou, compte tenu du fait que Pierre Poilievre est là depuis plus longtemps, ça lui donne un avantage important?
Mais c'est intéressant comme question parce qu'il dit, oui, les règles sont meilleures que la dernière fois en 2020, à la dernière course de laquelle il s'est désisté à la dernière minute. Mais dans les faits, les délais sont les mêmes. Il dispose de 3 mois pour recruter des nouveaux membres. Il faut qu'on comprendre que la campagne de M. Charest reposera sur le recrutement de nouveaux membres. En fait, ce qu'on cherchera à faire l'équipe de M. Charest, c'est diluer, dans le fond, l'impact ou l'influence des éléments qu'on pourrait dire réformistes qui se trouvent concentrés dans l'ouest du pays. Et pour ça, ben, il faut recruter des gens plus en Ontario, plus au Québec. Et pour ça, 3 mois, c'est aussi court que la dernière fois. Mais je pense que cette fois-ci, M. Charest sent qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence combiné au fait que, bon, il y a eu 2 chefs conservateurs qui n'ont pas gagné et combiné au fait qu'il y a une lassitude envers M. Trudeau. Et donc, cette idée que, là, cette fois, c'est la bonne, on peut gagner si on a un bon chef et donc, il ne faut pas échapper la balle. Et donc, il pense que cette fois-ci, même avec le même délai, il sera plus capable de recruter ces gens et donc de gagner la course. Mais c'est un gros pari, là.
Oui, un gros pari. Mais Hélène, dis-moi, peu importe qui l'emporte, là, que ce soit Jean Charest ou Pierre Poilievre, est-ce que le Parti conservateur va pouvoir sortir raisonnablement uni de cette course à la chefferie ou on va simplement assister à l'éclatement du parti?
Moi, je pense que la réponse est non. Il va y avoir un éclatement, que ce soit M. Poilievre ou M. Charest. Et là, il faut mettre un bémol ici. Si, admettons, Patrick Brown, le maire de Brampton, ancien chef du Parti conservateur de l'Ontario, se lançait et s'il gagnait, peut-être que les choses seraient différentes, mais on n'en est pas là encore. Mais si c'est M. Poilievre ou M. Charest, oui, il y a de très, très fortes chances d'éclatement. L'aile qui n'aura pas choisi le chef claquera la porte d'une certaine manière. Symboliquement.
Ça serait le scénario idéal pour les libéraux de Justin Trudeau.
Peut-être, mais en même temps, je pense que ce serait moins dramatique si ça se produisait avec une élection de M. Charest. Parce que M. Charest, s'il perdait l'aile de l'Ouest, ça c'est mon analyse, je pense qu'il pourrait plus facilement s'en remettre parce que l'aile de l'Ouest, elle resterait cantonnée comme un ancien parti réformiste qui n'aurait pas de poids dans la balance, alors qu'il y a du potentiel de croissance en Ontario, au Québec et dans les Maritimes pour M. Charest. Alors, l'éclatement avec Charest à la tête, je pense, serait moins dommageable, électoralement parlant, que l'éclatement avec Pierre Poilievre à la tête. Mmh. Mais bon, on verra tout ça, mais il y a de très fortes chances que ce parti-là ne sorte pas indemne de cette course au leadership. Ceci dit, si ça devait être couronné d'une victoire électorale un an plus tard, il y a peut-être des divisions qui pourraient s'effacer un peu.
Le pouvoir parfait agit comme facteur d'unité. Dis-moi, Hélène, au Québec, bien sûr, le nom de Jean Charest, ça soulève plusieurs ambivalences. Évidemment, il doit vivre avec son passé de premier ministre. Là, il y a eu une bonne nouvelle récemment quand on a appris que l'UPAC avait mis fin à l'enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral. Mais ce dossier-là risque peut-être de ressortir pendant la campagne électorale, la course à la chefferie, mais dis-moi, tout ce que le nom de Charest peut soulever au Québec comme réaction, ça doit pas être la même chose dans le reste du Canada, parce qu'il a quand même été un peu absent de la scène canadienne là, depuis son passage comme chez les conservateurs,
un peu beaucoup, on l'a oublié. M. Charest a quitté la scène politique fédérale il y a 25 ans, en 1998. Bon, sporadiquement, on entendait parler de lui au Conseil de la Fédération en tant que premier ministre québécois, mais on l'a un peu oublié et il a donc un certain dossier, je dirais, vierge. Il y a 25 ans, là, c'est une éternité en politique. Alors, il n'a pas ce bagage-là et même si vous parlez de mâchurer, essayez d'expliquer ça en 12 secondes dans le Canada anglais, là, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça marche pas. Alors, il y aura pas ce boulet-là que ça peut représenter au Québec, mais en même temps, moi, je persiste à penser qu'au Québec, il y a beaucoup d'orphelins politiques qui ne se retrouvent plus dans un parti libéral très campé à gauche de Justin Trudeau et qui sont peut-être un peu tannés, qui ne se retrouvent pas non plus dans le Parti conservateur, qui ne veulent pas nécessairement stationner leur vote au Bloc québécois. Et donc, ils pourraient peut-être, oui, trouver en Jean Charest un compromis acceptable ou digeste pour se débarrasser des libéraux. Alors moi, je l'écarterais pas d'emblée qu'il pourrait faire des gains. Il y a un terreau fertile conservateur au Québec. Il suffit de bien le canaliser. Et M. Charest, il est doué en politique. public. Et je pense qu'il est quand même capable de faire ça, même s'il y a une part de la population qui, à cause de son passé, là, ne votera jamais pour lui.
Hélène, en terminant aujourd'hui, dans une entrevue qu'il accordait à la Presse Plus et à notre collègue Joël Denis Bellavance, Jean Charest, il a ouvert la porte de la construction de nouveaux pipelines. Alors, bien sûr, c'est peut-être une bonne nouvelle dans l'Ouest canadien. Sûrement pas mal plus difficile à vendre au Québec. Comment il va faire pour naviguer dans ce dossier-là?
Sa position, elle est très similaire à celle de Justin Trudeau quand on y pense. C'est une position qui, au lieu d'être dogmatique, est pragmatique. C'est-à-dire, on croit à cette idée qu'il faut décarboner l'économie canadienne, qu'il faut aller vers les énergies renouvelables, diminuer nos gaz à effet de serre, etc. Mais en même temps, il faut être pragmatique. Il faut constater que le pétrole ne cessera pas d'exister parce qu'on en a encore besoin pour propulser nos voitures, les avions, plein d'industries qui en ont encore besoin. Et donc, soyons pragmatiques. Si on est pour acheter du pétrole, ce que nous faisons en ce moment de l'étranger, pourquoi pas se l'acheter nous-mêmes et exploiter le pétrole que l'on a soi-même en bonne réserve. Alors, c'est le même discours que M. Trudeau fait, qui ne lui sert peut-être pas beaucoup parce que ceux qui sont environnementalistes ne l'aiment pas, ceux qui sont pour le pétrole ne l'aiment pas non plus. Mais M. Charest, justement, parce qu'il serait pro-pétrole, il pourrait au moins se gagner la portion conservatrice avec ça. Alors, je pense que c'est un discours qui est vendable, mais c'est sûr que ça sera un peu casse-gueule au Québec.
Hélène, si jamais Jean Charest remporte la mise, devient chef du Parti conservateur, ça veut dire que les trois chefs des principaux partis politiques fédéraux, ceux qui ont le plus de sièges à la Chambre des communes, seraient des Québécois. Comment on va avec, bien sûr, Justin Trudeau, lui-même Jean Charest, et M. Blanchette du Bloc québécois? Comment le reste du Canada réagirait à ça?
Ah, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine que ça va peser autant parce que, bon, d'abord, vous dites que Monsieur Trudeau, il y a des gens qui pensent qu'il ne sera pas à la prochaine élection. Moi, je ne suis pas de celles qui pensent ça, mais quand même, il y en a qui pensent que ça pourrait être Mme Freeland qui se retrouve là. Je suis pas certaine que ça pèsera autant du fait que, quand même, les conservateurs ont eu trois précédents chefs là qui venaient pas du Québec. Alors, à un moment donné, il y a aussi le jeu de l'alternance qui joue. Pas certaine que ça pèserait autant, surtout si M. Charest n'arrive pas avec un discours perçu comme anti-pétrole et donc anti-Ouest, ça pourrait effectivement mieux passer.
Bon, on l'a bien vu d'ailleurs, là, il y a déjà ce souci de ménager ses appuis ou d'affirmer ses appuis dans l'Ouest en disant que lui, il comprend la réalité canadienne de partout au pays. Alors, on va voir si ce discours-là va réussir à convaincre les membres du Parti conservateur de l'appuyer. Le chef du Parti conservateur, c'est quoi? C'est le 10 septembre qu'on connaîtra son nom de mémoire?
Oui, exactement, en pleine campagne électorale provinciale.
C'est vrai?
Ça pourrait être intéressant. Admettons que M. Charest ait été élu. Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur Mme Anglade? Quelle dynamique ça créerait? Je pense que ça va mettre du piquant dans une campagne électorale provinciale qui n'en manquera par ailleurs pas.
Bon, on verra si M. Legault se prononcera. La dernière fois, quand il y a eu une élection fédérale, disons qu'il s'est prononcé pas mal souvent sur qui était son favori.
Mais là, ça pourrait faire des drôles de contorsions quand même.
Oui,
avec
tout
un
à
ancien
fait.
Adversaire libéral qui se retrouve à la tête du parti qu'on appuyait la dernière fois.
Exactement. Hélène Buzetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Plaisir.
Salut Hélène Buzetti, journaliste au Soleil de Québec et au Coop de l'information.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, on termine l'émission avec une cause importante qui est portée par un projet inspirant. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la journée de la pantoufle. Et c'est au profit de la fondation Le Grand Chemin qui vient aux adolescents qui souffrent de dépendance. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette campagne-là, c'est son volet intergénérationnel parce que les pantoufles vendues pour financer la cause sont tricotées par des grands-mamans qui correspondent par écrit avec un ou une jeune en traitement. Alors, on aura trois invités au cours des prochaines minutes. D'abord, le directeur général de la Fondation. On aura une grand-maman, puis on aura un jeune qui a profité des pantoufles fabriquées par la grand-maman. Et je vous annonce que c'est la première fois qu'ils vont se parler, la grand-maman et le jeune. Alors, ça devrait être pas mal. Mais d'abord, je me tourne du côté de Simon Côté. Simon Côté, c'est le directeur général de la Fondation. Bonjour, Simon.
Bonjour Philippe.
Simon, dites-moi, comment ça s'est développé cette initiative-là?
En fait, on s'est inspiré de nos jeunes qui sont en traitement chez nous 8 à 10 semaines pour traiter leur thérapie dans un de nos trois centres. Et ces jeunes-là, sont habillés en mou, sont habillés en, sont, se promènent en pantoufles parce qu'ils sont dans un milieu qui qui se veut réconfortant, sécuritaire, enveloppant. Donc, c'est à force d'aller voir ce trimballe en pantoufles, ça nous a inspiré. Puis évidemment, ben, l'an dernier, c'était la première édition, il fallait se réinventer avec la COVID, on peut pas faire de spectacle, on peut pas faire de super bénéfices, etc. Donc, il fallait se réinventer. Donc, c'est l'amalgame de ces réflexions-là qui nous a amené à créer le jour de la pantoufle.
Mais comment vous avez fait pour trouver les grands-mamans qui allaient tricoter les pantoufles?
On a fait des partenariats avec des résidences de personnes âgées, donc des RPA. On a travaillé notamment avec le groupe COGIR, des résidences du réseau Sélection, Chartweb et autres, qui, par l'entremise des groupes de loisirs, avaient déjà des groupes de tricot. Donc, on est rentré en contact avec eux. Les grands-mamans étaient bien contentes. Nous, on leur fournit la laine. Ils nous fournissent leur talent. Puis, nous créer toutes sortes de pantoufles, toutes plus magnifiques les unes que les autres.
Bon, alors, Simon, une de ces grands-mamans qui a du talent, qui a fourni son talent, comme vous le dites si bien, ben, c'est Fernande Ali, qui a été bénévole, bien sûr, impliquée dans la campagne. Ça fait 2 ans qu'elle participe. Madame Ali, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Ali, expliquez-nous comment vous avez vécu ça, ce projet-là. Ça doit être quand même le fun de pouvoir aider une jeune personne qui affronte des difficultés dans sa vie personnelle.
Pour moi, c'était extraordinaire parce que avec le mouvement, là, moi, j'ai ça à cœur, l'éducation. Puis, je trouve que pour aider les jeunes, là, je ferais n'importe quoi.
C'est beau. Combien de temps ça vous prend pour fabriquer une paire de pantoufles?
Oh, ça peut être 5 heures, 6 heures, ça dépend là, du modèle qu'on va faire. Mais moi, j'ai fait des beaux modèles.
Ah oui, vous êtes fiers de vos modèles?
Oui.
Vous en avez fait combien de paires depuis le début?
Ça me gêne un peu. 45 paires.
45 paires?
Oui.
Bravo. Oui. C'est extraordinaire. Et un de ceux qui a reçu ces pantoufles-là, ben, c'est un jeune de 15 ans qui s'appelle Joey. Joey est en thérapie dans un centre Le Grand Chemin. Et il a correspondu avec vous, Madame Ali, mais je pense que c'est la première fois que vous allez vous parler de vive voix, n'est-ce pas? Oui, alors, Joué, salut.
Allô?
Salut, Joué, rencontre celle qui a fabriqué tes pantoufles, Madame Ali. Dis-lui bonjour.
Bonjour, Joué, ça me fait plaisir. Je suis contente. Il m'a écrit une belle lettre. J'étais contente. Et
vraiment?
Puis, je te souhaite bonne chance dans ta cure. Puis, je sais que ça va bien aller.
Joué, qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir des pantoufles, une paire de pantoufles fabriquées par Mme Ali?
Ben moi, au début, je ne m'attendais pas à avoir une réponse, dans le fond. Puis quand elle m'a répondu avec une photo de elle, ben ça m'a tellement fait chaud au cœur, ça a été fou. Mais de recevoir aussi ces pantoufles, parce que j'ai pris une photo avec, je lui ai envoyé. je les porte tous les jours, là, c'est vraiment chaleureux d'avoir une marque d'affection de quelqu'un qui se tient à vous à l'extérieur, autre que vos parents. C'est vraiment cool.
Joey, tu traverses une période difficile, tu es en train de vaincre ta dépendance. Justement, de sentir cet appui-là, tu viens d'en parler, je pense que ça doit être au cœur de ce que tu as besoin, de sentir une espèce d'appui collectif autour de toi.
Effectivement, c'est quand même, c'est pas une job facile à être en thérapie, puis je pensais pas avoir le courage au début de faire ça, mais avec toi, ça se passe assez bien. Pour vrai, tout est positif ici. On a très bien encadré, puis effectivement, c'est vraiment le centre de ce qu'on a besoin. On a besoin d'amour, on a besoin de support, puis tu sais, toutes les pantoufles qu'on a reçues, on en a reçu une vingtaine de paires. Tout le monde est content, puis tout le monde les porte. Fait que, ouais.
Je trouve que le mot que tu utilises, Joey, c'est tellement important. Tu dis c'est pas une job facile, faire une thérapie. C'est un travail de tous les instants. Hein?
Vraiment, vraiment.
Puis là, ça va bien?
Ah ben oui, moi ça va super bien. Je suis rentré en dernière phase de la thérapie. Il me reste juste 2 semaines. Puis ben c'est ça. Ben pour vrai, ça se passe très très bien. Puis je vais bientôt être chef de groupe. Très hâte.
Eh hey, bravo. Madame Ali, quand vous entendez ça, quand vous entendez le témoignage de Joé, puis que vous réalisez que vous avez participé à cet effort pour qu'il réussisse à progresser dans la vie, ça doit vous faire chaud au cœur.
Oh, je suis bouche bée. Je suis très émue. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Surtout de savoir qu'il va bien, là. J'ai prié pour lui, puis je suis en amour avec.
Vous êtes en amour avec.
C'est... Oui, ah oui. C'est cute. Ah oui, je suis contente.
Tu sais, quand on dit que le Québec a besoin de ses aînés, là, des fois, on se demande ce que ça veut dire concrètement. Ben là, on en a une preuve, là, une preuve absolument extraordinaire. Simon, dites-moi, vous, là, vous venez d'entendre, vous êtes le directeur de la Fondation, je le rappelle, vous venez d'entendre cet échange entre la grand-maman bénévole, Fernande Ali, et entre Joé, qui a 15 ans. Qu'est-ce que ça vous fait de les entendre comme ça?
Ah ben ça me fait toujours chaud au cœur, hein. C'est beaucoup d'émotions. C'est des thérapies, c'est chargé d'émotions pour les jeunes, puis même pour les intervenants qui travaillaient avec eux. Donc c'est vraiment magnifique de voir ça. Puis qui avait pu avoir la chance de se parler sur vos ondes, c'est fantastique.
Dites-moi, Simon, il y a combien de jeunes qui sont dans vos maisons à l'heure actuelle?
Actuellement, les groupes sont réduits à cause de la COVID. On s'attend à pouvoir retourner à notre capacité d'accueil normale, qui est d'environ d'une douzaine de jeunes par centre. On a trois centres au Québec, un à Québec, un à Montréal et un à Saint-Célestin, qui est pas très loin de Bécancour. Donc, présentement, on doit avoir à peu près, je dirais, 20-25 jeunes. Là, je dis ça de Villeneuve parce que j'ai pas le portrait de tous les centres. Là. Moi, je suis un peu à gauche, à droite. Donc, à peu près une vingtaine de jeunes là, qui présentement sont en cours. Mais par année, c'est grosso modo 200-250 jeunes qui passent dans les centres Le Grand Chemin.
J'ai une question. Quelle était l'idée aussi de rejoindre des générations? Parce que là, tu sais, on vient quand même d'avoir une déclaration d'amour là, d'une dame d'un certain âge. Mais ça fait partie du concept.
C'est le plus beau moment de l'émission,
mais
ça.
Oui. Mais c'est peut-être que la pandémie, il y a eu une distance. Parce que qu'est-ce que vous voulez? On pouvait plus vraiment se voir. J'imagine que ça fait partie de votre concept aussi de connecter des générations
oui.
qui ne se parleraient pas autrement.
Oui, ben on avait déjà fait un projet intergénérationnel avant que la pandémie pogne, si je peux dire. Hein. Avant que ça démarre, on faisait des activités intergénérationnelles dans les centres. Donc, les jeunes allaient faire de leur thérapie, de la zoothérapie avec les personnes âgées. Évidemment, rentrer dans une résidence des personnes âgées depuis 2 ans, ça peut être pratique impossible. Donc, on est parti de cette idée-là. Ça avait été super formateur pour les jeunes, pour les personnes âgées aussi appréciées. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait rallier tout ça? Et on cherchait des tricoteuses, puis je sais pas vous, mais moi, les meilleures tricoteuses que je connais, c'est des grands-mamans. Mm-hmm. Donc, ça a été un naturel d'aller vers elles.
Dites-moi, Mme Ali, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres grands-mamans que vous connaissez comme ça qui participent à cet effort-là?
Maison, résidence, là. Nous étions trois surtout, là. On a partagé des modèles, on a partagé beaucoup, on a développé de l'amitié intense depuis ce temps-là. Ça demeure depuis 2 ans, là, c'est avec les trois personnes, là, puis on travaillé surtout pour ça.
Donc, vous êtes senti, ça, c'est tellement important, utile à quelqu'un, à une autre personne qui a besoin d'aide.
Exactement.
C'est cool,
ah, oui,
ça.
C'est un besoin pour moi aussi.
Oui, j'en doute pas.
Oui.
Joé, toi, là, dans ton centre, quand tu penses à tous ces efforts-là, à ces gens qui pensent à vous, ça te fait quoi?
Ben honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on passe à la radio. Je m'attendais à ce que notre centre soit dans un petit coin perdu, tu sais, Saint-Célestin, c'est pas grand. Mais c'est de savoir que tous les gens qui nous écoutent à la radio présentement pensent à nous, puis pensent à notre centre, ben c'est. Je suis vraiment sans mots, sérieux. Je m'attendais tellement pas à ça, puis ça me fait tellement plaisir. Puis j'espère qu'on va vraiment embarquer d'autres jeunes qui ont des problématiques de dépendance dans nos centres, parce que c'est clairement juste positif. Il n'y a aucune raison de ne pas venir.
C'est ça. D'abord, il faut accepter qu'on a un problème, j'imagine.
Ah oui, c'est la première étape. C'est aussi la première étape du deuil de la consommation. On fait beaucoup d'ateliers là-dessus. Puis ben, accepter qu'on a une problématique de consommation, c'est pas difficile, mais c'est la première étape pour pouvoir savoir qu'on a besoin de thérapie, effectivement.
Joey, tu me rappelles ton âge?
Moi, j'ai 15 ans.
Écoute, je t'écoute parler. Tu sais, on parle de vieille âme, là. Je vais te dire que tu as du talent pour les communications. Tu t'exprimes sérieusement, parfaitement.
Tout à fait.
Si tu m'avais dit j'ai 38, j'aurais dit ben oui. Ça va être l'allure. Je te dis, si tu veux travailler là-dedans, je sais pas qu'est-ce qui t'intéresse. Ben justement, qu'est-ce qui t'intéresserait de faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?
Ben moi, pour de vrai, j'ai pas de grande idée, mais j'irais peut-être dans l'horticulture, travailler avec les plantes, mais sinon, ça me dérangerait pas d'être vendeur ou quoi que ce soit, parce que je sais que je suis bon à parler.
Okay.
J'ai gagné beaucoup de combats avec ma voix, je trouve.
C'est vrai? Comme quoi?
Ouais. Ben, je devrais pas parler de ça en nombre, mais je suis allé en cours puis j'ai gagné. Là.
Ben, t'es bien avocat, pour
ben,
toi!
C'est ça, tu t'es bien défendu!
Ah oui, certainement. C'est spécial.
Bon, tu as échangé des lettres avec Mme Ali, mais vous n'êtes pas rencontrés.
Non, mais je prévois en sortant, pour de vrai, j'irais totalement faire un tour à Nicolette. C'est sûr que je l'appelle en sortant. Elle n'est pas sur ma liste d'appel présentement, mais c'est sûr à 100% que je vais prendre soin.
T'attends mon beau.
Tu vois, c'est ça, je pense.
C'est vrai que tu parles bien. T'as un beau langage. Je te félicite. Pour un jeune, là, c'est parfait.
Vous, Mme Ali, vous avez travaillé en rééducation dans votre vie?
Oui, j'ai travaillé à Drummondville dans un centre pour jeunes filles.
OK. Puis qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais éducatrice. Mmh. Oui, j'ai travaillé 6 ans. J'ai enseigné, puis j'ai perdu la voix, fait que je suis allée en rééducation.
OK.
Oui.
Ben, écoutez, bravo. C'est vraiment une initiative absolument formidable. Je disais d'entrée de jeu, ça fait bizarre de dire ça, la journée de la pantoufle, hein? Mais quand on commence à décortiquer le sujet, puis on constate le travail immense qui est accompli, puis surtout, MC Catherine, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est la solidarité humaine. Puis tu sais, ça revient au fond à ça. Le succès d'une société, ça passe par quoi? Ça passe par de la solidarité. Ça passe que quand quelqu'un a un problème, mais il y a quelqu'un d'autre, peut-être une personne qu'on connaît pas, puis on lève la main, puis on répond présent. Et je pense que ça, Mme Ali, vous nous donnez, à l'âge de 88 ans, un exemple à tous, et je vous en remercie.
Ben, c'est peu. C'est peu, mais en tout cas, si ça peut aider, là, tant mieux.
Bon, ben oui, je pense que ça aide pas mal. Joey, bonne chance pour la suite. On souhaite tous que ça va bien aller pour toi.
Je t'attends, Joey.
Beaucoup, vraiment, merci beaucoup tout le monde, puis Fernand Ali, on se revoit un jour.
C'est le fun.
Attention, c'est une promesse, il faut absolument que tu ailles la voir. Là.
Absolument.
Oui, d'accord.
OK, Simon, pour terminer, rappelez-nous, là, est-ce qu'on peut en acheter, nous autres, des pantoufles? Comment ça fonctionne?
Oui, on a 200 autres sympathiques grand-mamans comme Mme Ali qui ont tricoté. On a plus de 1500 paires de pantoufles au jourdelapantoufle.com. Vous pouvez en commander. Évidemment, les pantoufles sont un peu plus chères, mais c'est un don, c'est une façon de contribuer. Vous allez avoir un reçu d'impôt qui va venir avec ça. Puis on invite tout le monde à enfiler leurs pantoufles le 18 mars prochain. C'est vendredi prochain, on finit. Le dernier vendredi de l'hiver, on le finit en eau chaude et en beauté avec nos pantoufles. Si vous avez déjà vos pantoufles Mickey Mouse, ça marche pareil. Vous pouvez les mettre à l'école, au bureau, à la maison. On prend tout ce qui passe. Un mouvement de solidarité pour les jeunes.
Puis là, sur la messagerie, on me le demande beaucoup parce qu'on le dit vite, mais je vais le dire lentement. jourdelapantoufle.com. Et pantoufle, en passant, ça prend un T et un F. Donc, jourdelapantoufle.com.
Exactement. Ben, je pense que c'est une super cause. Simon Côté, Fernand Ali et Joey, 15 ans, merci beaucoup d'avoir été avec nous
modèle.
Aujourd'hui.
Au revoir.
OK. À une prochaine.
Au revoir. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli.
Salut,
OK.
Joey.
Ciao.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.